Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimaroche est très heureuse de vous retrouver. Dans les studios de Radio Grand Ciel aujourd'hui, je reçois le député d'Eure-et-Loir, monsieur Olivier Marleix. Bonjour Olivier,
bonjour,
comment allez-vous?
Très bien, merci.
Alors grosse panique, non, grosse activité actuellement, les gilets jaunes.
Oui.
Vous les soutenez?
On est en plein dedans, je les soutiens. J'ai soutenu,
j'en ai un dans mon sac, le voulez-vous?
Moi j'ai bien, je vous remercie.
D'ailleurs, non. Vous avez remarqué Olivier, je vous ai mis un micro jaune.
Un micro jaune, merci, c'est délicat comme attention. Non, je les ai soutenus dès que j'ai appris par les réseaux sociaux que ce mouvement allait s'organiser. Ça me paraissait un mouvement sain et salutaire pour appeler l'attention quand même de l'ensemble de nos compatriotes sur ce qui est en train de se préparer avec cette taxe sur le gasoil, dont j'ai bien conscience que... C'est un phénomène déclenchant, mais ça ne résume pas tous les problèmes. En clair, cette année, on a subi une hausse du carburant quand on va à la pompe. Moi, j'ai une Mégane. Je mettais pour 60 euros d'essence l'année dernière. Cette année, mon plein me coûte 80 euros. Bon, ça, c'est parce qu'en fait, M. Macron...
25% de plus, donc.
Ouais, bah oui, 22-25%, c'est ce que constatent les gens en moyenne. Ça, c'est en fait la première lame du rasoir. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en début de quinquennat, M. Macron a fait voter une loi, une trajectoire d'augmentation de la fiscalité carbone, et que cette trajectoire, donc, elle prévoyait pour 2018 ce que nous avons subi, 3,7 milliards d'augmentation, cette augmentation de 20 euros par plein dont je viens de vous parler. Mais l'année prochaine, on va avoir de nouveau 3 milliards d'euros de plus, on va passer à 6,9. En 2020, 3 milliards de plus. Et au total, on arrivera à la fin du quinquennat à 14,2 milliards de plus de fiscalité carburant, à laquelle il faut ajouter la TVA, puisque le Bercy est génial à ce point de nous faire payer des impôts sur l'impôt, donc de la TVA. Donc
22%.
En total, prélèvement sur le fiscalité carburant ou fuel, ça va être 17 milliards d'euros de plus en 5 ans. 17 milliards d'euros, pour que les gens se rendent compte, c'est quelque chose de colossal, on a un peu de mal à voir ce que ça représente, c'est la moitié du produit de l'impôt sur les sociétés en France. C'est-à-dire qu'on va prélever sur les Français... Les plus moyens en termes de revenus, c'est-à-dire qui vivent en grande banlieue, qui vivent à la campagne, sur leur déplacement, l'équivalent de la moitié du produit de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire quelque chose d'absolument colossal. Évidemment, ce qui est insupportable, c'est que ça ne concerne pas, ça ne touche pas les habitants du centre-ville de Paris, qui eux ne se déplacent pas en gasoil, ils ont le métro, ils ont tout ce qu'il faut, qui ne se chauffent pas au fuel domestique, puisqu'ils ont la chance d'avoir le gaz de ville, etc., etc. Donc c'est ce qui a été décidé par le gouvernement et que les Français ne voient pas encore, hein, complètement. On n'est qu'à la première lame. Il y en a quatre autres derrière, et quelque chose de totalement inacceptable. C'est pour ça qu'on a vu naître ce mouvement qui est totalement spontané, qui ressemble un peu, qui fait penser au jacquerie qu'on connaissait en France sous l'ancien régime.
Il y a une chose qui m'avait amusée, enfin si on peut dire, le premier film des Tuches, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais dans la bande-annonce, il y avait une petite anecdote qui m'avait vraiment interpellée. La première chose que faisait cette dame quand elle allait faire le plein, elle allait faire le plein jusqu'à temps d'entendre le petit déclic. Et elle disait que c'était la première fois de sa vie qu'elle entendait que son réservoir était plein. Parce que jusque-là, comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle était obligée de faire...
C'est énorme, ça. Dès cette année, j'étais vraiment frappé de voir, quand on voit à la pompe des gens qui se contentent de mettre 10 euros dans leur réservoir.
Effectivement,
parce qu'ils n'ont pas les moyens
d'être plus.
Oui. Vous vous dites... Et ça, c'est quelque chose qu'on a connu quand le prix du pétrole était élevé dans les années 2008-2009. C'est vraiment un signe manifeste qu'il y a un problème grave dans ce pays, quoi. En général, sur des gens en plus qui prennent leur bagnole pour aller travailler.
C'est pas normal non plus. On dit, j'ai besoin de mon véhicule absolument pour aller travailler. Mais j'ai aussi besoin de mon véhicule pour aller me promener. Parce que la vie ne se résume pas exclusivement qu'au travail
ça,
et à l'obligation.
Vous savez, ça, malheureusement, je crois que pour la plupart des gens qui manifestent aujourd'hui, on en est là, que la question d'ailleurs des loisirs, des déplacements, malheureusement,
c'est
quelque
fini.
Chose de totalement... Ouais, je suis allé aux côtés des Gilets jaunes sur des points de rassemblement. Les gens que vous y rencontrez, c'est dans l'immense majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques gens un peu particuliers, mais dans l'immense majorité, 80% sont des gens comme vous et moi, enfin des gens tout à fait normaux, qui juste vous disent, voilà, moi je suis une retraitée, je gagne 1300 euros, j'ai un loyer à payer, j'ai de l'appart à payer, et je ne m'en sors plus. Voilà, je ne m'en sors plus. On m'a pris 40 euros de CSG, donc de prélèvements supplémentaires l'année dernière. Les pensions n'ont pas été revalorisées pendant 5 ans. Alors que tout augmente dans la vie. Je n'y arrive plus. C'est un témoignage direct d'une dame la semaine dernière. Un autre monsieur très bien qui me dit moi, vous savez, je gagne 2000 euros net par mois. Je pensais que c'était bien. Je me suis jamais plaint, mon patron. Mais une fois que j'ai remboursé les annuités de ma maison, un peu plus de 800 euros par mois, voilà, maintenant le problème, c'est que j'ai une fille qui vient d'avoir son bac et qui est étudiante à Rouen, il faut lui prendre une chambre, et ben on ne s'en sort plus du tout. Voilà. Et à 2000 euros, et ben je suis juste au-dessus de tous les seuils des aides. Des gens qui manifestent,
c'est
leur
ça
point
le
commun,
problème.
C'est que ce sont les gens qui sont juste au-dessus des seuils d'aide, qui n'ont jamais droit, qui sont juste au-dessus de la solidarité et qui, par contre, à qui on prélève pour financer la solidarité pour les autres, des gens qui vivent aussi bien sans se fatiguer. Quoi. Voilà, donc on est vraiment dans une situation qui aux yeux des gens, est profondément injuste.
C'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas.
Alors, en clair, c'est un vieux sujet dans notre pays. On sait très bien que on vit aussi, je vais pas dire aussi bien parce qu'on vit sans doute pas bien, mais finalement, il n'y a pas de différence entre vivre de revenus de l'assistance, de subsistance, pour peu que vous bricoliez un petit peu, fassiez quelques heures par-ci par-là, mais vous avez droit à un certain nombre d'aides. Vous vivez pas bien, une fois encore, mais voilà. Mais en revanche, vous arrivez à vous en sortir, et vous en sortez en réalité pas plus mal que ceux qui, eux, bossent et qui gagnent, voilà, quand vous êtes, une fois encore. Le seuil à partir duquel vous n'avez plus le droit à rien, il est juste au-dessus du SMIC, en réalité. Voilà. Donc, dès que vous êtes quelqu'un qui travaille à temps plein, un peu payé un peu au-delà du SMIC, vous n'avez plus droit à aucune aide, vous êtes bon juste à payer des impôts. Et donc, c'est
mais
aussi
ça, c'est un vieux débat,
c'est aussi
parce que...
ça qui fait que c'est insupportable. À l'époque de Sarkozy, qui avait, paraît-il, bien des défauts, je veux bien le croire, mais il avait quand même ce souci d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. Donc, il y avait, pour tous les gens qui étaient sur des faibles niveaux de revenus, il y avait ce fameux dispositif d'or supplémentaire sans charge, donc du coup que
et
les
ça
patrons aimaient bien
remis,
distribuer,
ça
avait été supprimé par Monsieur Hollande et c'était défiscalisé. Donc, c'était vraiment un bonus, c'était un 13e mois pour beaucoup de gens dans l'année. Tout ça a disparu, donc il y a plus il y a plus cette incitation, se travailler plus pour
travailler
pour gagner
plus pour gagner plus.
En revanche, la fiscalité depuis 6 ans a explosé. Sous François Hollande, on évalue à plus de 40 milliards d'euros de fiscalité supplémentaire. Et sous Monsieur Macron, la première année, vous avez eu une explosion avec la CSG de 20 milliards, plus de 20 milliards d'euros de CSG, quelque chose d'absolument considérable. On n'a jamais eu une hausse aussi massive, en réalité, de la fiscalité sous la 5e République. Plus de 20 milliards d'euros d'un coup sur les Français, une fois encore, et la CSG, elle est payée aussi par vraiment ceux qui ont des revenus extrêmement, extrêmement modestes. Et puis, là, maintenant, cette taxe sur le fuel et sur le gasoil, enfin, sur les sens, parce qu'en fait il y a un double effet, il y a des taxes sur tous les carburants et il y a un rattrapage gasoil-essence. Tout ça, ça représentera 17 milliards d'euros à la fin du quinquennat et là c'est vraiment la goutte d'essence qui a fait déborder le vase du ras-le-bol fiscal. Quoi.
Et on peut faire quoi ?
Ça, c'est une loi de finances qui a été programmée pour 5 ans. Moi, j'ai voté contre. C'était au début du quinquennat, tout le monde était encore dans l'euphorie. On n'avait pas le droit de voter contre ce que faisait M. Macron. Moi, je fais partie de ceux qui avaient voté contre dès le départ. Parce qu'une fois encore, je pense que le vrai sujet dans ce pays, c'est enfin, il faut arrêter d'augmenter la fiscalité. Et pour arrêter d'augmenter la fiscalité, il faut avoir le courage de réduire la dépense publique. Parce qu'en fait,
Cet
c'est
argent,
vrai
il
que
va où finalement?
cet argent, malheureusement, le budget de l'État, pour l'essentiel, c'est de la masse salariale. C'est la rémunération de notre fonction publique. Alors, je vais le dire d'ailleurs, aujourd'hui le problème c'est pas les fonctionnaires individuellement, le problème c'est le système. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on ne sait même plus, vous savez, les salaires dans la fonction publique qui progressent en fonction d'un point d'indice qui n'a pas été revalorisé pendant des années. Hein. Donc, en général, le sort des fonctionnaires, notamment de plus faible catégorie, est loin d'être enviable, contrairement à ce qu'on dit parfois. Et puis, il y a des avancements d'échelon, etc. Tout ça fait que même quand on ne fait rien, même quand on ne les augmente pas, ce qu'on appelle le glissement vieillesse, technicité, le fait que les gens ont droit quand même à des avancements d'échelon, crée une dépense qui augmente malgré tout et qui augmente de cette année la dépense publique, elle augmente de 24 milliards d'euros essentiellement à cause de la masse salariale. Donc si on veut arrêter cette folie fiscale, si on veut arrêter de faire les poches des Français comme ça, et qui visiblement enfin, qui n'en peuvent plus, ils ont raison, parce qu'en fait il y a de moins en moins de Français d'ailleurs
J'ai
payent
entendu
l'impôt
parler de raquettes,
sur
carrément.
lesquels dans la poche desquels on prend, eh bien il faut avoir le courage aussi de s'atteler à cette question de la réduction de la dépense publique. C'est un
Je
sujet
dirais enfin,
évidemment
parce que ça
évidemment
fait
compliqué.
un petit moment qu'on y
Ça
pense
fait un
quand
moment
même.
qu'on y pense. Là aussi, on a un président de la République, sauf que j'ai travaillé pour lui, donc j'étais un peu plus attentif à ce qu'il a fait, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui avait le courage de le faire. Et qui avait le souci de le faire d'ailleurs de manière juste pour les fonctionnaires. C'est-à-dire que le donnant-donnant qu'il avait fait avec les fonctionnaires, c'est je réduis c'était le 1 sur 2, je réduis le nombre de fonctionnaires. Mais le gain financier qui en résulte, je le partage entre d'une part la réduction du déficit et d'autre part la revalorisation
Donc,
de
ceux
vos
qui restent
carrières. Voilà.
seront mieux payés,
Moins de fonctionnaires, mais mieux
mais mieux
payés.
payés.
Voilà. Je pense que c'est une nécessité et qu'il va falloir y revenir. François Hollande avait cassé cette dynamique. Sans doute faut-il d'ailleurs un peu l'affiner par rapport à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Sans doute faut-il être aussi plus ambitieux. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le statut de la fonction publique absolument partout? Vous savez, la fonction publique aujourd'hui, c'est 2 millions, 2,2 millions de fonctionnaires dans le budget de
Il
l'État,
y en a
mais
qui sont
c'est.
simplement assimilés fonctionnaires.
Oui, non, mais en titulaire, vous avez 2 millions, un peu plus de 2 millions à l'État, 1 million dans la fonction publique hospitalière et 1 million dans les collectivités locales.
Et est-ce qu'on sait enfin combien il y a de fonctionnaires à Bercy ou pas?
Non, c'est trop compliqué, ça, ils savent pas le dire. Mais,
Je ne sais plus quel ministre des Finances était arrivé à son poste. Au ministère, il avait commencé par demander combien de fonctionnaires travaillaient pour lui. Personne n'a été ou capable ou n'a voulu lui dire.
Oui, non, mais on a eu ce problème de recensement. Vous savez, moi, j'ai dans de beaucoup de ministères, moi, je les ai connus ici quand les personnels des collèges ont été transférés au département. L'éducation nationale était incapable de nous dire combien il y en avait en poste dans le département. Voilà, parce que c'est compliqué, ça c'est lié aux règles de la fonction publique. En tout cas, voilà, il faut avoir le courage de remettre tout ça à plat. Ce que je regrette, une fois encore, c'est que dans son mandat, en réalité, cette élection présidentielle a été un rendez-vous.
Manqué.
Tragiquement manqué, parce que notre pays a vraiment besoin d'un certain nombre de réformes. C'est des sujets sérieux, des sujets sur lesquels il faut arriver à construire un consensus, parce qu'une fois encore, vous voyez comme c'est compliqué. Nicolas Sarkozy a eu le courage de réduire, d'appliquer le 1 sur 2 sur son discours. C'était, je vais le faire dans tous les ministères, parce que si je commence à sortir, à ne pas le faire au ministère de l'Intérieur, dans les forces de l'ordre, on va me reprocher, on va me dire, mais pourquoi tu le fais pour les forces de l'ordre et tu le fais pas d'exception pour la santé, pourquoi tu fais pas d'exception pour l'éducation, etc. Donc il avait fait partout. On lui reprochait, il s'en est pris plein la figure, qu'en réduisant de 10 000 le nombre de fonctionnaires sur 200 000, hein, sur 200 000, 10 000 sur 200 000, il avait désarmé la France, en quelque sorte. Bon, voilà, en réalité, là j'ai entendu le nouveau ministre de l'Intérieur avoir, dans une discussion budgétaire, l'honnêteté de reconnaître que, en fait, toutes les mesures catégorielles dont on bénéficie en termes donc, d'amélioration des rémunérations, notamment un certain nombre de gradés dans la gendarmerie ou dans la police, ça n'avait été possible que parce que Nicolas Sarkozy avait eu le courage de verrouiller un peu les effectifs.
On a parlé des tâches subalternes, si l'on peut dire, des tâches de secrétariat qu'étaient obligés de faire les policiers au lieu d'être sur le terrain. Est-ce qu'on ne pourrait pas engager des secrétaires?
Bien sûr.
Pour libérer un petit peu l'action de ces policiers.
Tous ces sujets-là sont sur la table. Aujourd'hui, il y a à la fois un temps de procédure qui est terrible et qui prend beaucoup de temps.
C'est une force d'inertie.
Alors moi je crois beaucoup, c'est aussi des réformes de fond qu'il faut mener derrière. Moi je crois beaucoup que les nouvelles technologies, la ubérisation, etc., ne doit pas avoir que des côtés déstabilisants. En réalité, c'est aussi, notamment dans des grands ministères de main-d'œuvre comme le sont les forces de l'ordre, sont aujourd'hui des moyens à la fois de gain de temps formidables pour les forces de l'ordre et aussi des éléments assez motivants. Là, les gendarmes, par exemple, ont été tous équipés par l'actuel directeur général de la gendarmerie, le général Lizuret, qui a mis des moyens considérables sur ces sujets-là de smartphone avec un logiciel, une application spécifique qui s'appelle NeoGendre et qui leur permet de remplir beaucoup de tâches, de préparer leurs procédures en fait grâce à ces smartphones. C'est un gain de temps formidable, c'est un gain d'efficacité dans leur action. Demain, on pourra aller beaucoup plus loin. On pourrait imaginer par exemple que les relevés d'empreintes se fassent en faisant les photographies avec le téléphone et que tout de suite ça matche ou pas avec les bases de données. Donc en réalité, les technologies peuvent être des moyens de réduire, cette masse salariale. Là, je pense que qu'il y a un grand rendez-vous, un grand rendez-vous de la dépense publique qu'il faudra organiser dans ce pays. Ça suppose d'avoir des syndicats qui soient résolument réformistes, qui ne soient pas dans la défense de précarer un peu suranné.
Mais là, les syndicats sont complètement débordés, non, avec les gilets jaunes, c'est votre avis?
Oui, bien sûr, ils le sont, un peu d'ailleurs comme les partis politiques ont été eux-mêmes...
Ils essaient de ramer derrière, dépasser, pour rattraper tout ça.
D'ailleurs, c'est ce qu'il y a d'inquiétant dans la démocratie d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a une volonté farouche de casser tous les corps intermédiaires, tout ce qui, en réalité, fait quand même un peu l'ossature d'un pays et l'ossature d'une démocratie.
Mais dans quel
pays? Je vous donner un exemple très, très, très clair sur les députés. Ils ont élu des députés groupe En Marche qui sont vraiment à l'Assemblée extrêmement nombreux. Ils sont plus de 300 députés du groupe En Marche avec le MoDem 350. Donc une majorité absolue tout à fait écrasante. Ces députés, en général, c'est des gens qui n'avaient aucun engagement public, qui n'avaient jamais eu aucun engagement dans la vie publique ou même dans la vie associative. Hein. Ils ont envoyé un CV, ils ont eu l'investiture En Marche, les gens les ont élus dans une espèce d'euphorie, d'extase collective du pays. Et leur programme à l'Assemblée nationale, c'est de dire on est là pour soutenir les réformes de M. Macron. Ah bon, lesquelles?
La République En Marche.
On est là pour soutenir la réforme de Macron. Vous ne demandez pas lesquelles, ils ne les connaissent pas. Mais ils sont là pour soutenir. Le rôle du Parlement, ce n'est pas que ça. Le rôle du Parlement, c'est aussi d'être dans un dialogue entre la majorité, y compris sa majorité.
Il y a une discussion déjà.
Et le gouvernement, pour dire attention, vous faites fausse route. Moi, je me souviens. J'étais conseiller de Nicolas Sarkozy notamment je m'occupais des relations avec l'Assemblée nationale. Je me souviens que les députés jouaient un rôle extrêmement vigilant. Il y avait parfois des envies de réforme un peu bousculées chez Sarkozy. Les députés étaient les premiers à lui dire halte là, réfléchis à deux fois, regarde ce que tu fais. Et je vais vous donner un bon exemple. Sur la seule réforme sur laquelle Nicolas Sarkozy est vraiment reculé, c'est-à-dire une réforme qu'il a faite voter à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que finalement il n'a pas mise en œuvre. Vous savez laquelle c'est? C'est la taxe carbone. Et pourquoi? Eh bien parce que les députés, et c'est venu des députés de sa majorité, lui ont dit l'idée d'une taxe carbone. La taxe carbone, en fait, c'était pas une mauvaise idée. C'est de dire, dans cette mondialisation où on importe des cochonneries de Chine à bas coût, alors que tout ça pollue avec des bateaux qui polluent considérablement, on aurait peut-être intérêt, en réalité, à les taxer pour que nos productions propres en France n'aient pas ce désavantage comparatif. Sauf que le système qui avait été inventé, pour pas non plus pénaliser trop les entreprises, etc., c'était un système où ça se répercutait, comme la TVA. Sauf que pour le consommateur final en bout de chaîne, Et ben lui, la personne sur qui le répercutait. Alors, dans certains cas, la répercussion, c'était ben, le produit importé est plus cher, donc on n'achète pas, on va aller importer le produit français qui a moins de taxes carbone. Donc, c'était très bien. Sauf qu'il y avait un cas qui était très problématique, c'était quand vous faisiez votre plein d'essence. Parce que là, vous aviez la taxe carbone et l'utilisateur final que vous êtes ou que je suis n'avait personne pour la répercuter. Et donc, c'était une augmentation du plein de 10 ou 15 euros par mois. Et les députés ont dit à Sarkozy à ce moment-là, attends, tu as fait les heures supplémentaires pour donner plus de pouvoir d'achat aux Français et tu vas leur reprendre avec la taxe carbone. Et je me souviens encore très bien de Nicolas Sarkozy qui était un peu énervé qu'on lui apporte un argument qu'il était obligé de Merci. Recevoir et contre lequel il n'avait pas de réponse. Et il a dit, ok, vous avez raison, j'abandonne. Voilà. Donc les députés avaient permis à l'époque à Nicolas Sarkozy de ne pas faire d'erreur qui aurait pénalisé les Français. Emmanuel Macron.
Et dans les 350 députés de LE,
il a des groupies, donc majoritairement les groupies continuent d'aduler leur idole. Non, je commence à voir à la télé de temps en temps un ou deux qui disent qu'il faut arrêter. Bon, voilà. Mais une fois encore, on a besoin de c'est le rôle des parlementaires.
Alors, cette augmentation du carburant et de tout ce que nous mettons dans nos voitures et je suppose dans nos chaudières également, c'est quand même extraordinaire parce que là, j'ai des chiffres sous les yeux. La Chine est à 28%, ensuite il y a les États-Unis 14,9%, l'Inde 6%, la Russie 4,4%, le Japon 3,6%. Derrière, à 1, il y a l'Allemagne qui pourtant fonctionne avec des centrales au charbon.
Qui a rouvert ce charbon.
Incroyable, incroyable. La Corée du Sud, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Italie, 1% comme la Turquie. Et nous sommmes à la 15e place avec 0,9%. D'émissions de CO2.
Bien sûr, non,
alors
mais ça
veut
c'est
dire
le,
quoi,
c'est,
ça
c'est le, donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un, d'un côté, il y a ce défaut français de vouloir de céder à, malheureusement, à une espèce de lobby ou à des idéalistes. Je ne mets pas les deux exactement dans le même sac, mais ça arrive à la même chose, où on veut donner des leçons entières à la planète et on veut être tout seul à réformer le monde, même si nos efforts sont évidemment ridicules si on n'arrive pas à emmener les autres. Les autres sont beaucoup plus malins, les Chinois et les Américains. Eux, ils attendent d'avoir des technologies prêtes avant de dire au monde il faut se convertir, il faut changer. Alors que nous, on est prêts à dire il faut se convertir, etc., même si on n'a pas les solutions de rechange. Vous voyez, on vient la semaine dernière.
On a juste les idées, quoi.
On a les idées et on ne regarde pas les conséquences. Je vais donner un bon exemple. Hier, je suis allé visiter dans le Doubs, c'est pas à côté, une entreprise qui est le leader mondial de la fabrication des emballages plastiques dans lesquels il y a des fruits et légumes, enfin tout type d'emballages qui servent pour des produits frais. Leader européen, une entreprise française avec 2800 emplois. Eh bien, on a voté à l'Assemblée nationale, dans la loi égalité alimentaire, un amendement qui interdit au 1er janvier 2020, c'est-à-dire dans un an pile, l'utilisation de tous les emballages alimentaires en plastique. En réalité, il n'y a aucune alternative. Alors, il peut y en avoir, il y a du carton, mais alors du carton avec du plastique à l'intérieur. Donc en réalité, il y aura du plastique toujours. On a voté un truc qu'on ne sait pas appliquer. Parce qu'il y avait eu la veille une émission, la veille du jour où ça a été voté à l'Assemblée nationale, émission d'Élise Lucet qui disait que les sacs en plastique, c'est pas bien, ça tuait les poissons. Et qu'il y avait un continent, etc. Vous savez combien la France et les États-Unis représentent, la France plus les États-Unis représentent de cette production de déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans. C'est évalué à 2% pour la France et les États-Unis. Donc en réalité, ce sont les pays du tiers-monde qui génèrent ces déchets et qui derrière n'ont pas de filière de traitement. Donc régler le problème, c'est quoi la solution a été ? C'est d'aider, en plus on a des savoir-faire pour le faire, d'aider ces pays en développement à traiter leurs déchets, mais c'est pas être tout seul en France, toujours les mieux-disants, alors que nous ce sont des plastiques aujourd'hui qu'on recycle. L'entreprise que j'ai visitée, elle utilise des plastiques recyclés à 70%. Et vous avez une marque, je vais la citer, Monoprix par exemple, qui leur a dit, la loi est votée, donc Élise Lucet a parlé, la loi est votée, il faut qu'on fasse venir des cartons à la place, donc on rompt le contrat avec vous, et ils vont faire venir des cartons qui seront plastifiés, et qui vont venir de Russie. Ce bilan carbone, c'est formidable. Donc on est aujourd'hui, on légifère souvent dans une espèce de comment dire, de sentimentalisme, on fait peur aux gens, on excite les gens.
Mais
d'ailleurs,
Olivier,
il
est-ce que vous
ne
croyez pas que
c'est
complètement contre-productif et que ça retire les gens de leur responsabilité
en
se disant
il
y en a marre de
l'écologie. C'est beaucoup plus que contre-productif, c'est-à-dire que ces emballages alimentaires en plastique, ils sont arrivés aussi, alors d'ailleurs ils ont plein d'intérêts, qu'on n'évoque pas, dès lors qu'ils sont recyclés une fois encore, dès lors qu'on sait les recycler, pour moi, l'utilisation du plastique n'est plus un problème. Le même produit plastique, en fait, il peut avoir jusqu'à 8 vies. Donc c'est en réalité extrêmement formidable, ça nourrit une économie circulaire, puis à un moment, s'il ne peut plus être revalorisé comme emballage alimentaire, il est utilisé pour autre chose, faire du mobilier ou que sais-je.
Ou des routes.
Oui, mais aujourd'hui, on sait faire des choses absolument formidables. Et donc, on est en train de casser tout ça. Et on ne sait pas une fois encore par quoi le remplacer. Ce que je voulais vous donner, c'est un chiffre sur, en réalité, sur la fiscalité écologique, qui était le point de départ de votre question. Donc, cette année, on a vu qu'elle va augmenter de 3,6 milliards. Je trouve que le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, Albéric de Montgolfier, sénateur d'Eure-et-Loir, qui a fait un petit tableau très clair. Il montre où va l'argent, où vont les 3,6 milliards. Est-ce que vraiment ils vont servir à la transition écologique? Eh bien, il a montré que sur les 3,6 milliards, aujourd'hui, il y a 200 millions, sur les 3,6, 200 millions, qui sont fléchés sur ce qu'on appelle l'agence des financements des infrastructures de transport, c'est-à-dire qu'ils vont financer des tramways, des modes de déplacement, tramways, trains, ou même d'ailleurs infrastructures routières. 200 millions d'euros de plus seulement. La part affectée à ce qu'on appelle le compte d'affectation spéciale transition écologique, c'est-à-dire c'est la part de cette fiscalité qui est réellement affectée à la transition écologique. Regardez le tableau pour montrer que je ne mens pas. On passe de 7,2 milliards à 7,2 milliards. Donc en réalité, ça ne bouge pas. Il y a une part qui revient aux collectivités locales qui elle-même ne bouge pas. La seule part qui augmente, donc qui passe de 13,3 milliards à 17 milliards, c'est quoi? C'est la TICP brute affectée au budget général de l'État. C'est-à-dire qu'en réalité, cette taxe écologique n'est pas lié à la transition écologique comme essaye de nous faire croire Emmanuel Macron. C'est un énorme mensonge du président de la République. Elle est affectée, en tout cas pour l'année 2018 et pour l'année 2019, elle est affectée au trou du budget de l'État. Un point, c'est tout. Le reste, ce sont des fariboles.
Et ça, vous le dites à l'Assemblée, haut et clair.
Bien sûr, je le dis. En fait, je ne suis pas le seul à le dire. C'est là qu'en fait, d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement est coincé, parce qu'aujourd'hui il a beaucoup de mal à annuler cette augmentation de la taxe carbone.
Et pourquoi?
Mais parce qu'il faudra trouver des recettes de substitution pour ne pas aggraver davantage le déficit. Je rappelle que le déficit, il va être dans le projet de loi de finances que nous sommes en train de voter, il est de 100 milliards. Il atteint les 100 milliards. En moyenne, on était plutôt autour de 60-70 milliards.
Et le PIB de combien?
Là, on arrive à 100 milliards. Enfin, peut-être pas donner trop de chiffres, mais le déficit public cette année va atteindre 100 milliards en valeur absolue. Voilà, donc on ne peut pas l'aggraver.
Et ce déficit public fait l'objet de prêts. Nous empruntons de l'argent.
Il faut aller emprunter non seulement ces 100 milliards, mais il faut aller emprunter nos 2000 milliards de dettes. La France a 2000 milliards de dettes, 100% du PIB. Hein, pour répondre à votre question sur le montant du PIB, on est à 100%, on a 2000 milliards de dettes et tous les ans, on rajoute 70, 80, là cette année on va rajouter 100 milliards de dettes. Donc en réalité, si vous supprimez ces 3,6 milliards de taxes supplémentaires cette année, et ceux de l'année prochaine, par exemple, eh ben, il faut trouver immédiatement 6 milliards d'euros, enfin cette année en tout cas déjà 3,6 milliards. Déjà, si vous supprimez la recette de 3,6 milliards attendue par l'augmentation de gasoil, il faut trouver la ressource ailleurs. Ils ne savent pas le faire évidemment, et donc il faut faire une économie, on ne sait pas faire non plus d'économie, donc c'est l'impasse. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas reculer, qu'ils ne savent pas reculer parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre dans ce budget. Il n'y a eu aucun effort d'économie fait par Emmanuel Macron depuis qu'il est en responsabilité. Alors effectivement, là où ça dérape, c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire si les taux d'intérêt remontent, ce que l'on sait être totalement inéluctable, eh bien là, c'est évidemment terrible. Je crois que 0,1 point c'est tout de suite 5 milliards d'euros à trouver dans le budget de l'État. Donc c'est
banqueroute.
C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'à une époque, un Premier ministre qui disait qu'il était à la tête d'un État en faillite. Malheureusement, on a eu une année 2017 de croissance plutôt favorable, qui était liée justement à des conjonctures internationales plutôt favorables, c'est-à-dire des bas taux d'intérêt et un prix du pétrole assez bas. On aurait dû en profiter pour faire des réformes. En réalité, on ne les a pas fait. Je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, mais l'année dernière, premier budget de M. Macron, il fait voter un budget avec de mémoire, je crois, 476 réductions d'effectifs dans la fonction publique d'État. La fonction publique d'État, c'est 2,2 millions. Il a supprimé 476 postes de fonctionnaires. C'est pas à ce rythme-là qu'on va rétablir les finances de notre pays. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de marge de manœuvre. La seule façon que ce gouvernement n'est pas capable de trouver d'autres solutions que celle de faire les poches des Français, d'où cette révolte à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui, une fois encore, est malheureusement totalement légitime et salutaire.
Olivier, nous allons clore aujourd'hui cette émission. Nous allons recommencer un autre volet pour pouvoir examiner peut-être les solutions que vous préconisez, les solutions aussi pour tout le reste. Est-ce que la paupérisation de la police, est-ce que la désertification médicale, est-ce que vous avez des solutions pour tout ça? De toute façon, nous allons nous revoir bientôt. Je vous remercie infiniment d'être venu dans nos studios. Émilie Glory enregistrait cette émission et nous la retrouverons bientôt. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir,
Au
Olivier.
revoir, merci.
Merci.